Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, 13h30 à Paris, 14h30 à Kigali. Tout de suite, Afrique Midi, présenté par Nicolas Brousse. Nicolas, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Le président du Ghana, membre de la CEDEAO, est en tournée diplomatique pour resserrer les liens avec l'AES, la nouvelle alliance des États du Sahel. Il propose notamment pour cela aux trois pays, Mali, Burkina, Niger, un accès à ses installations portuaires. Au Gabon, les candidats à la présidentielle avaient jusqu'à hier soir pour déposer leur dossier. Ils sont 23 à l'avoir fait, mais pour certains, il est incomplet par manque de temps. Reportage à suivre à Libreville. En RDC, situation chaotique dans les villes du Kivu, tombées aux mains de l'AFC M23 à Bukavu. Face à l'insécurité au plus haut, des habitants et groupes d'autodéfense lynchent des présumés criminels. Bukavu, où comme à Goma, le paiement des fonctionnaires est par ailleurs un véritable défi alors que les banques restent fermées. Afrique Midi, le grand journal du continent, bienvenue, on tourne ensemble la première page. Faire le pont entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES qui ont quitté l'organisation panafricaine, c'est l'objectif annoncé du président ghanéen en tournée diplomatique. Et pour y arriver, Amélie Tulé, après le Mali hier et normalement avant le Burkina Faso, John Dramani Mahama est au Niger, porteur d'un message conciliant.
Oui, l'avion du président ghanéen a atterri il y a une heure environ à Niamey, au programme entretien avec le général Abdourahmane Tchiani, président du CNSP, réunion de travail à la présidence du Niger. Face à des autorités militaires qui s'installent dans la durée, le président ivoirien Alassane Ouattara avait demandé mercredi dernier à son homologue ghanéen de faire ce pont entre la CEDEAO et les trois pays de la Confédération AES. Et sur son site internet, la présidence ghanéenne ne parle pas explicitement d'espérer un retour des trois États dans le giron de la CEDEAO, mais plutôt d'une réconciliation. Hier, à Bamako, avec le général Assimi Goïta, selon la présidence ghanéenne, John Dramani Mahama a engagé des discussions ainsi sur le renforcement de la coopération sécuritaire face, je cite, à la menace croissante de l'insurrection et du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il a aussi souligné l'importance du commerce de transit, mettant à la disposition du Mali, vous l'avez dit, les ports ghanéens sur la façade atlantique. Et après cette visite sur son compte X, le président intérimaire malien a parlé du président ghanéen comme de son frère, avec qui œuvrer au renforcement des liens, de la sécurité et du développement.
Dossier suivi par Amélie Tulé. À la frontière avec le Mali, un poste de police mauritanien situé à Gogui a été attaqué à coups de pierre, puis brûlé hier par des migrants en voie d'expulsion. Les forces de l'ordre seraient intervenues avec des gaz lacrymogènes si l'on en croit des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, la Mauritanie procède à une vaste campagne d'arrestation et de refoulement de migrants en situation irrégulière. Campagne très critiquée sur les réseaux sociaux et par des ONG. Au Gabon, le dépôt de candidature à la présidentielle du 12 avril prochain était possible jusqu'à hier soir et ils sont 23 à avoir pu le déposer. Mais pour être dans les temps, plusieurs de ces futurs candidats reconnaissent avoir fourni des dossiers incomplets. Certains qui n'ont notamment pas eu le temps de rassembler la caution de 30 000 millions de francs CFA, soit 45 000 euros, promettent de le faire dès la semaine prochaine. À Libreville, Yves-Laurent Gomain.
Après avoir déposé son dossier, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé sa mise en disponibilité de l'armée.
C'est dire qu'aujourd'hui, je suis apte à faire de la politique et même à occuper la fonction suprême.
L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bidé-Binzé a déposé son dossier mais n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, le syndicaliste Jean-Rémy Yama a accusé les militaires qui l'ont sorti de prison après la chute d'Ali Bongo de préparer des fraudes.
Ce qui est sûr, c'est que des mécanismes sont mis en place pour tricher, mais d'autres mécanismes aussi seront mis en place pour découdre ce qu'ils ont cousu.
Au moins 4 femmes ont fait acte de candidature. Parmi elles, Zainaba Ninga Chaning, femme d'affaires.
J'ai une conviction. Je pense que ce Gabon mérite, ce pays mérite mieux. En tant que président de la République, je ferai de mon mieux pour que le Gabon se développe mieux. Voilà.
Selon le code électoral, les candidats doivent être âgés de 35 à 70 ans. Un critère que conteste Pierre Claver Maganga Moussavou, 72 ans.
Écarter un candidat qui est expérimenté, bien formé, pour des critères d'âge, c'est tout simplement vil. Et celui qui accepte cela, accepte de mourir. Moi, je n'accepte pas de mourir.
Plusieurs postulants sollicitent un délai supplémentaire pour compléter le dossier, avec notamment la quittance du Trésor, prouvant le dépôt de la caution de 30 millions de francs CFA. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
En Côte d'Ivoire, on se prépare aussi à la présidentielle. Elle est prévue en octobre prochain. Jean-Louis Billon, député du PDCI-RDA, est désormais exclusivement ivoirien. Un décret publié au journal officiel de l'État français en date d'hier 8 mars confirme sa renonciation à la nationalité française. Une démarche incontournable pour être candidat à la magistrature suprême ivoirienne. L'homme d'affaires a déjà affiché son ambition de représenter son parti lors de ce scrutin, mais il n'est pas seul. Son principal rival pour l'investiture du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a quant à lui annoncé le mois dernier avoir engagé des démarches similaires pour abandonner sa nationalité française. Démarches qui, pour l'instant, n'ont pas abouti. En République démocratique du Congo, trois semaines après la prise de contrôle de Bukavu par le M23 soutenu par le Rwanda, l'insécurité règne dans la capitale provinciale du Sud Kivu. Selon des témoignages que nous avons pu recueillir, des personnes y sont tuées, des maisons attaquées par des bandits armés presque chaque soir. On rapporte également que de nombreux présumés criminels sont lynchés la nuit par des habitants en colère, parfois rassemblés en groupes d'autodéfense. Un climat qui forcément inquiète la société civile, les mouvements citoyens et les défenseurs des droits humains. Écoutez par exemple Amos Bissimwa, militant du mouvement citoyen OBAPG, l'Observatoire des actions parlementaires et gouvernementales en RDC.
Il ne se passe plus un jour sans qu'on soit au-delà des 12 morts dans la ville de Bukavu et ses périphéries. Au moins 12 morts. La semaine écoulée, on est allé au-delà de 14 par jour. Des gens qui sont en train d'être tués, soit par justice populaire, les gens se rendent justice. Mais aussi des règlements de comptes. À part ceux qui sont brûlés par justice populaire, beaucoup d'autres sont tués par balle dans la tête. L'insécurité causée par des gens qui ont évadé dans différentes prisons de la ville comme dans nos territoires. On peut les estimer à plus de 5000 ceux qui ont évadé, profitant aujourd'hui des armes qui ont été abandonnées dans la rue par nos phares de sécurité. Et ce sont ces armes-là qu'ils utilisent pour insécuriser la population et tuer les paisibles citoyens. La recommandation est qu'on voudrait que la justice reprenne ses activités pour voir si du moins on peut juguler cette situation. Mais aussi, la police qui avait été envoyée à Goma pour une formation idéologique devait revenir dans l'extrême urgence pour assumer l'ordre public.
Et l'insécurité est également financière. À Bukavu, mais aussi à Goma, la capitale du Nord Kivu, qui est sous le contrôle de la FCM 23, soutenue par le Rwanda. Et là, c'est depuis 40 jours. Les banques, depuis, restent fermées. Dans ces conditions, comment gérer les fonctionnaires? Comment assurer la paye des agents publics de l'État? La réponse est un véritable défi pour l'administration parallèle que la FCM 23 tente de mettre en place, mais aussi pour le gouvernement de Kinshasa qui cherche à préserver l'unité de l'administration sur l'ensemble du territoire. À Kinshasa, les précisions de Patient Ligodi.
Les fonctionnaires des provinces sont payés grâce aux recettes locales. Mais aujourd'hui, ces revenus échappent à l'administration officielle. Le gouvernement provincial du Sud Kivu s'est délocalisé à Uvira et celui du Nord Kivu à Beni suite à l'offensive de l'AFCM 23. Depuis ces villes, ils tentent de fonctionner mais n'ont pas la main sur l'ensemble des recettes, ce qui complique encore plus la situation. Rien que pour le Sud Kivu, la masse salariale des fonctionnaires provinciaux atteint environ 900 000 $ par mois. À cela s'ajoute un autre défi, tous les fonctionnaires ne relèvent pas de la gestion provinciale. Certains dépendent directement de Kinshasa où des solutions sont à l'étude. Comment leur envoyer de l'argent sans risquer de financer indirectement l'AFCM 23 au ministère de la fonction publique? L'une des pistes envisagées est d'abord une mise en disponibilité d'office, ce qui signifie que l'absence au travail ne conduira pas à des sanctions administratives. Une autre problématique concerne les agents qui ont fui leur zone d'affectation, certains ayant même trouvé refuge dans des pays voisins. À Kinshasa, on réfléchit à un paiement via la téléphonie mobile, mais cette option nécessite des préalables logistiques avant d'être mise en œuvre. De son côté, l'AFCM 23 affirme travailler sur la question des salaires, mais aucune décision officielle n'a été annoncée.
En Guinée, cela fait maintenant 8 mois ce dimanche que les deux leaders de la société civile, Mamadou Biloba et Fony Kemenge, ont disparu. Ces deux militants du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, avaient été enlevés à Conakry le 9 juillet dernier. Depuis, leurs familles, leurs proches sont sans aucune nouvelle. Interrogé cette semaine sur leur disparition, le Premier ministre de Transition affirme que les enquêtes se poursuivent. Mais pour Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, en fait, aucune enquête n'a été ouverte, propos recueillis par Pierre Firsion.
8 mois durant, ni l'épouse de Foniké, ni l'épouse de Bilo, encore moins les témoins directs de leur enlèvement n'ont été contactés par la justice guinéenne pour être entendue. Donc, cela suppose qu'il n'y a jamais eu d'enquête ouverte, comme l'affirment les autorités. Je pense que c'était juste une fuite en avant pour servir l'opinion internationale en affirmant qu'il y a une enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête ouverte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous, la coordination nationale du FNDC, n'avons jamais encouragé les familles des victimes à porter plainte devant les juridictions nationales, parce que convaincus au regard du statut des présumés coupables, la justice ne fera absolument rien. L'affaire sera classée sans suite, malheureusement. C'est pourquoi nous comptons maintenant sur la justice internationale, puisque la disparition forcée est reconnue en droit international comme étant un crime contre l'humanité. Nous espérons que la justice sera rendue à l'international, parce que c'est un crime qui n'est pas frappé des prescriptions.
Ce 9 mars marque aussi au Zimbabwe un triste anniversaire. Le 9 mars 2015, le journaliste et militant Itai Dzamara, à l'époque âgé de 35 ans, était enlevé par 5 individus à la sortie d'un salon de barbier en banlieue de la capitale, Harare. Depuis, sa famille et ses proches ignorent toujours tout ce qui a pu se passer. Et Claire Bargelès, les organisations de défense des droits de l'homme continuent de réclamer une enquête.
Avant son enlèvement, Itai Dzamara avait déjà été intimidé, attaqué et arrêté pour son militantisme. Il manifestait notamment pour l'amélioration des conditions économiques et la démission du président de l'époque, Robert Mugabe. Depuis sa disparition forcée, aucune avancée n'a eu lieu sur le plan de la justice, même sous le gouvernement d'Emerson Mnangagwa, selon Tigere Chaguta, représentant d'Amnesty International.
Le gouvernement zimbabwéen a laissé tomber la famille d'Itai Dzamara. La haute cour du Zimbabwe avait ordonné à la police et aux services de sécurité de l'État de chercher Itai et de remettre un rapport sur leurs progrès toutes les deux semaines. Mais jusqu'à ce jour, aucun service de sécurité n'a respecté cette décision et la police a cessé de rendre les rapports qui avaient été demandés par la Cour.
Cette absence de justice envoie un très mauvais signal pour la société, selon Dika Maibere, directeur de l'Association zimbabwéenne pour les droits de l'homme.
Au Zimbabwe, on a déjà connu dans le passé beaucoup d'enlèvements qui n'ont jamais été élucidés. Et cela plonge les militants dans l'insécurité. Cela donne aussi un sentiment d'impunité pour les auteurs de ces crimes, à qui on envoie le message qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils sont au-dessus des lois.
Selon Amnesty International, sur les deux dernières années, 10 opposants politiques ont été enlevés dans le pays, puis pour la plupart relâchés, sauf dans le cas de Tapfumanei Masaya, dont le corps sans vie a été retrouvé en 2023 dans une ferme. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Nous sommes en plein ramadan, l'occasion pour les musulmans de vivre plus sainement en journée. Je pense notamment aux fumeurs, puisque durant le mois de jeûne, ils sont invités à faire une pause. Nombreux d'entre eux en Tunisie profitent même de l'occasion pour tenter d'arrêter définitivement de fumer, alors que dans le pays, les chiffres sont alarmants. Selon les statistiques de l'Alliance tunisienne de lutte contre le tabagisme, 48% des hommes sont fumeurs, 13 200 décès par an sont liés au tabagisme. De quoi donc motiver ceux qui veulent se débarrasser de la cigarette et de la motivation, il en faut. Reportage de notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise.
De bon matin, Mohamed Ali, 29 ans, a du mal à ouvrir l'œil. Une semaine après le début du ramadan, ce mécanicien peine encore à se passer de sa cigarette matinale, accompagnée de café. Habituellement, il est à un paquet et demi par jour.
C'est vrai que ce que je vais consommer le soir après le repas de rupture du jeûne, ça n'a rien à voir avec ma consommation habituelle. Je ne vais pas compenser le fait de m'être privé pendant la journée. Mais le manque reste présent, même si j'essaye chaque année d'arrêter complètement. J'arrive juste à diminuer pour le moment.
Ayman, vendeur de légumes, veut aussi arrêter, mais dit manquer de motivation.
Bon, après la rupture du jeûne, j'enchaîne 5 à 6 cigarettes, mais vu que je dois me coucher tôt à cause du travail, je ne fume pas tout au long de la soirée, et lorsque je me lève, il est de nouveau temps de jeûner. Alors, corps ramadan, je peux m'enfiler jusqu'à 2 paquets de cigarettes entre la soirée et la journée.
Nizar Bahri, 55 ans et médecin, s'est lancé un défi. Fumeur depuis 30 ans, il souhaite vraiment arrêter définitivement, après avoir fait une séance d'acupuncture la veille de ramadan, pour se sevrer.
Au ramadan, on est obligé de ne pas fumer pendant la journée, et donc parfois on se dit, si on peut arrêter 12 heures de temps, et pourquoi pas 24, et pourquoi pas 48, et pourquoi pas une semaine, et pourquoi pas un mois, et pourquoi pas définitivement.
Après plusieurs tentatives et rechutes par le passé, il est confiant cette fois. Ce dimanche marque son 10e jour, sans aucune cigarette. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et pour aider à arrêter de fumer, on peut faire du sport. En rugby, la sélection sénégalaise U18 pour Under 18, les moins de 18 ans, lance sa préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Les recruteurs sont allés chercher des pépites ces derniers jours à travers tout le pays, notamment dans les régions de Thiès et Dakar. Et pour les heureux sélectionnés, c'est l'occasion de jouer dans la cour des grands et à domicile l'année prochaine. Confirmation avec à Dakar, Wahani Johnson Sambou.
Ce n'est que la deuxième séance, mais la pression monte déjà. Deux heures d'entraînement d'une intensité de compétition. Pour le staff des U18 de rugby, le message est clair. Malgré un statut de petit poussé, le Sénégal ne compte pas jouer les figurants aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qu'il accueille en octobre 2026. Papis Djiba Kondé, DTN du rugby sénégalais.
On a à cœur de faire une très belle prestation, que ce soit chez les jeunes filles et chez les garçons. Montrer aussi au monde qu'on a le potentiel et qu'on a aussi l'expertise pour pouvoir relever ce défi mondial.
Mais l'équipe doit faire face à un manque de moyens stressant, ce qui n'empêche pas les jeunes de faire preuve d'une grande détermination sur le terrain. Pour Aladi Malidienne, c'est le prix à payer pour vivre le rêve olympique.
Ça s'est bien passé, je me suis battu, je me suis donné à fond pour être dans l'équipe. C'est mon rêve.
Stop. Ces Olympiades de la jeunesse seront le premier gros challenge pour les U18 du rugby sénégalais, engagés dans une course contre la montre pour mettre sur pied des sélections compétitives. Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
À Dakar, comme en temps universel, il est 12h46.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Dimanche 9 mars, merci de rester avec nous pour la partie magazine. Et on va rester au Sénégal. Nous prendrons la mer avec l'Afrique en marche en passant à l'électrique pour moins polluer. Puis nous emprunterons les chemins d'écriture avec notre guide Tirthankar Chanda et une nouvelle traduction du premier roman du Mozambicain Miyakuto. Enfin, 100% création, Maria Afonso à la rencontre d'une créatrice parisienne multiculturelle qui donne une nouvelle jeunesse à des matériaux fatigués. L'Afrique en marche grâce à la fée électricité qui s'invite sur les pirogues de Casamance et du Ciné Saloum. PME sénégalaise a décidé de proposer aux piroguiers de changer leur moteur bruyant et polluant par des systèmes électriques, donc silencieux et économiques. C'est l'Afrique en marche de ce dimanche avec Frédéric Gara.
Depuis 2018, Jocosun Energy, la société créée par Raymond Sarr, étudie les possibilités de remplacer un moteur essence par un moteur électrique sur les pirogues du Sénégal. L'hélice, le corps du moteur ne change pas, seule la partie carburateur est remplacée par un système électrique alimenté par une batterie rechargée au panneau solaire. Raymond Sarr, directeur de Jocosun Energy.
Ce qu'on propose aux piroguiers, c'est de nous amener leur moteur thermique et nous, avec nos mécaniciens formés et affiliés, on leur transforme ce moteur thermique en moteur électrique. On ouvre le bloc, la carcasse, et on remplace le cœur du moteur thermique par un cœur de moteur électrique. In fine, le moteur a la même tête, mais il est électrique. Et suite à ça, on relie à une batterie. Le piroguier, en faisant cette opération de rétrofit, il gagne en rentabilité et en autonomie au jour le jour, c'est-à-dire grâce au moteur électrique, il réduit à peu près de 50% ses coûts de carburant et de 3 fois ses coûts d'entretien, parce que les moteurs électriques nécessitent beaucoup moins d'entretien que des moteurs thermiques.
André Djamé est mécanicien et il fait partie de ceux qui ont été formés pour dispenser la solution moteur électrique aux piroguiers.
Oui, alors je ne le connaissais pas, mais là je connais maintenant parce que j'ai transformé 4 moteurs. C'est pour le tourisme, on l'a fait pour le tourisme. Enlever le bloc moteur essence et mettre la kit. Si tu connais, c'est simple.
D'autant plus simple que, à quai, la société Jocosun propose d'assurer le changement des batteries déchargées par d'autres batteries rechargées, elles, ce qui assure une autonomie presque équivalente à un moteur thermique. Raymond Sarr.
Le piroguier va débourser à peu près 100 000 francs. Pour faire cette opération de rétrofit. 150 euros. Donc, on lui apporte un moteur qu'on lui propose en leasing, donc il va payer en plusieurs fois, et on lui loue des batteries au jour le jour. Tout l'enjeu est de contourner la barrière de l'investissement initial. Donc, le coût de l'engagement pour le piroguier est faible, ce qui lui permet d'accéder et de se rendre compte de tous les bénéfices de l'électrique en douceur.
Aziz Guinchor, l'avantage de l'électrique Bab Biram Baro, que l'on surnomme Bio, propriétaire d'une pirogue pour touristes, l'a très vite compris.
Je trouve que c'est une très bonne idée pour le tourisme. Ça nous donne l'avantage de se rapprocher de plus près des oiseaux, parce que c'est plus silencieux. Ça ne pollue pas, donc c'est bon pour l'écosystème. Pour les pêcheurs aussi, qui font la traîne, qui ne fait pas beaucoup de bruit. C'est vraiment l'avenir pour nous, parce que le sens, c'est pas donné. Hein. En plus, avec les batteries solaires, tu dépenses moins.
Claire O'Neill est la directrice d'un programme appelé Manufacturing Africa pour la coopération britannique. C'est elle qui a cofinancé ce projet d'électrification des pirogues.
C'était de tester une solution d'énergie propre qui présentait un avantage économique ainsi qu'environnemental. Et ce qui est intéressant par rapport au projet, c'est un modèle circulaire. Donc c'était ça qui nous a attiré pour tester ce projet. Le fait que c'est une innovation, mais une innovation qui est bien adaptée aux besoins de population locale. On avoue déjà que ça a un effet très positif sur le trajet qu'ils font avec les touristes en termes de prix, mais aussi en même temps, ça préserve l'environnement marin.
Pour le moment, le projet ne compte que 5 pirogues équipées sur la Casamance et le Siné Saloum. L'expérience ayant fait ses preuves, on passera à 20 pirogues électriques dans le courant de l'année.
L'Afrique en marche.
Chronique de Frédéric Gara à retrouver comme toutes les autres sur RFI.fr, c'est-à-dire quand vous le voulez. Classique de la littérature africaine moderne, le premier roman du Mozambicain Miyakuto, Terre somnambule, a été traduit en 33 langues, dont le français, 2 ans après sa parution en 1992. Mais depuis, l'ouvrage a été épuisé. Heureusement, il vient à nouveau d'être traduit avec une version plus audacieuse qui a pour ambition, comme le précise la quatrième de couverture, d'être à la hauteur de la créativité de Miyakuto qui a voulu construire un langage qui rend compte d'une nation à la recherche de sa propre image. Tout un programme. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez rencontré la traductrice.
La traduction de Marie-Yvonne Lapouche-Pétorelli était épuisée depuis une dizaine d'années. Et l'idée, c'était que ce texte existe de nouveau en français. Nous en avons souvent parlé avec Miyakuto. Et donc, on a attendu que les conditions éditoriales soient réunies pour le faire. Et les choses se sont débloquées en septembre 2020 et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur cette nouvelle traduction.
Ainsi parle Elisabeth Monteiro Rodriguez, traductrice attitrée de Miyakuto. Elle connaît bien le projet littéraire de cet écrivain, pas comme les autres. Avec une quinzaine de romans à son actif, Kuto s'est fait connaître en 1992 en publiant Terre somnambule.
Bon, mais alors Tirtan Kar, que raconte ce roman ?
C'est un roman sur la guerre civile mozambicaine raconté dans un style magico-réaliste. L'auteur met l'accent sur les conséquences psychiques et culturelles de la guerre sur les hommes. Victimes d'atrocités et de souffrances, les protagonistes du roman tentent de se reconstruire. C'est ce processus qui est raconté dans ce beau livre à travers le parcours allégorique de Touahir et de Mwidinga, un vieil homme et un jeune adolescent, cheminant ensemble sur une route défoncée s'étendant par-delà des siècles, écrit Kuto. Lorsque la nuit tombe, le duo trouve refuge dans un machin bimbo, soit un carbrousse tout calciné, où la découverte du journal intime d'un homme nommé Kintu, convoquant d'autres univers que les leurs, les tient éveillés. Ce qui frappe dans ce roman, c'est la créativité narrative et poétique de l'auteur, dont témoigne la langue de Miyakuto, foisonnante et perméable à toutes les imaginations du monde. Elisabeth Monteiro Rodriguez.
Miyakuto se considère lui-même comme un traducteur. Ça tient à son positionnement dans son écriture entre différents mondes, entre par exemple l'urbain et le monde rural, entre les anciens et l'histoire. Comme là, donc, on a le personnage de Kinzu qui est un intermédiaire entre sa famille et puis donc il a été à l'école, donc ça va créer des choses identitaires. Et je pense que Miyakuto, en fait, ce langage, ce qu'il fait, c'est ça, c'est pour essayer de réunir en fait tous ces mondes.
Tirtan Kar, comment la nouvelle version française rend compte, comme vous me l'avez soufflé, de la lusophonie luxuriante de Miyakuto ?
Cela passe par une véritable révolution du langage poétique, émancipé de toute orthodoxie normative, comme le souligne la traductrice.
Ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est de recréer en français ce que le texte fait à la langue portugaise. le portugais de Miyakoto, en fait. C'est du portugais du Portugal avec une forte influence brésilienne. C'est du portugais du Mozambique. Donc, on va avoir des transferts de classes grammaticales, des changements de construction syntaxique, des emprunts aux langues africaines. Et c'est également des inventions lexicales qui sont propres à l'auteur.
Cela donne un texte incandescent, évoquant dès l'incipit, et je cite, « un pays où la guerre avait mort la route et où le paysage s'était métissé de tristesse, jamais vue, sous des couleurs qui poissaient à la bouche, alors que dans la savane alentour, seuls les baobabs contemplent le monde qui défleurit. » L'inventivité de la langue d'Elisabeth Monteiro Rodrigues, qui puise son originalité dans le français d'ici et d'ailleurs, fait résonner avec une intensité nouvelle le chaos et la douleur des terres somnambules originelles.
Terres somnambules par Miyakoto, avec donc cette nouvelle traduction parue aux éditions Métallier, coup de cœur dominical de Tirthankar Chanda. 100% création, celle d'Annie Cicatelli, une artiste française née en région parisienne et qui a grandi au Brésil. Son parcours multiculturel et ses expériences de vie variées nourrissent son travail artistique. Elle transforme ainsi des rebuts en objets de décoration, mêlant couleurs et formes pour créer des pièces uniques et originales, alliant esthétique et message éthique. Sa marque création Annie Cicatelli a reçu le label Fabriqué à Paris, qui distingue les fabrications locales, et on la rencontre avec Maria Afonso.
Une vie sans création, c'est pas une vie. Tu te lèves pour faire une expo, pour venir à un salon, pour rencontrer d'autres personnes. Ça me fait voyager. C'est enrichissant tout ça, parce que chaque personne a une expérience très différente.
Annie Cicatelli, designer textile.
Ça fait des années que j'ai cette marque, depuis 1999. C'était déjà création Annie Cicatelli.
Annie Cicatelli est née en région parisienne. Elle a vécu plus de 25 ans au Brésil. Elle a exercé comme journaliste au Brésil et à son retour en France, elle a travaillé dans des environnements internationaux, notamment à Radio France Internationale. Sa carrière lui a permis de développer un sens aigu de l'observation et une curiosité pour le monde, élément qu'elle intègre dans son art avec deux aspects différents mais complémentaires.
J'imagine, je mets des fils l'un côté de l'autre, les couleurs quand elles sont ensemble, elles se marient différemment. Et l'autre chose, c'est de faire des expos pour rencontrer les gens. Les gens, des fois, me demandent « t'as vendu ?» Je dis « j'ai rien vendu ». Mais alors, j'ai rencontré des gens, ça a été un bonheur. Bien sûr, on a besoin de vendre pour vivre, mais il y a aussi la partie rencontre qui est très importante. Écouter d'autres histoires, c'est ça qui est intéressant.
Annie Cicatelli crée des sculptures et objets textiles à partir de matériaux recyclés. Et son savoir-faire qui repose sur le crochet est un moyen d'expression artistique et non pas un loisir.
Il faut savoir qu'au Brésil, le crochet, c'est culturel. Donc ça fait plus de 50 ans que je fais du crochet. J'ai commencé à faire des tapis, des coussins. Et puis un jour, je me suis dit, oh non, mais j'ai envie de faire un truc que personne n'a jamais fait. Mais je veux travailler dans le recyclage. C'est très artistique, c'est des pièces uniques aussi, hein. C'est en 3D. Plus il y a du volume, plus ça m'intéresse. Je mets même du coton pour gonfler les pièces. Il faut vraiment que ça soit en volume. Oui, beaucoup de volume.
Les matériaux et supports ont une importance dans le processus de création d'Annie Cicatelli. En utilisant des objets récupérés et des dons, son inspiration naît de l'objet trouvé plutôt que d'une idée préconçue. Retrouvez l'univers des créations d'Annie Cicatelli sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Ainsi s'achève cette édition d'Afrique Midi. Sous vos applaudissements, mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck avec Pierre Vallée. Applaudissements bien mérités. Dans une minute, le retour de l'information sur Radio France Internationale. Merci à vous de nous suivre aussi fidèlement. Une minute et le retour de l'info.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Mouvements convulsifs, hallucinations visuelles. L'épilepsie est la maladie neurologique chronique de l'enfant la plus fréquente. Quelle prise en charge ?
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce jeudi, Couleur Tropicale fête ses 30 ans. Claude Missiard.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga. Nous avons 30 ans. 3 décennies au service des musiques et cultures afro. Nous aurons 2 heures d'antenne sur RFI. 2 heures de fête avec de nombreux invités. Beaucoup de musique, des émotions, des surprises et peut-être des larmes de joie. Couleur tropicale à 30 ans. Rendez-vous jeudi 13 mars à 20h10 temps universel. 21h10 en France. Toi-même tu sais.